Donc Bernard, depuis quand es-tu directeur de la maison Aragon-Triolet et Caroline, directrice adjointe?
Alors, j'ai été élu directeur de la maison à la fin 2000. Je crois que c'était dans un conseil d'administration un peu exceptionnel qui s'est tenu en décembre 2000. Voilà. Et Michel, moi à l'époque, j'étais en détachement dans un ministère. Je participais au cabinet du ministre des Transports de l'époque, du gouvernement de Jospin, qui était Jean-Claude Guesson. Et donc j'avais dit, oui, je veux bien être élu, mais je suis très très occupé dans ce cabinet. Donc Michel Appenmüller, qui était mon prédécesseur, c'est lui qui m'a passé les clés, eh bien, est resté pendant un certain temps à la direction de fait. Et je crois que c'était en 2000, en avril ou quelque chose comme ça, ou 2001, que ça s'est fait, voilà, qu'il m'a passé les clés et que je suis rentré en fonction effective. Je veux d'ailleurs en profiter pour lui rendre hommage, parce que Michel Appenmüller, au fond, finalement, la maison est ouverte depuis 1995. Le legs a été réglé, le legs d'Aragon, de la maison d'Aragon, à l'État, à la France, à l'État, donc, a été réglé en 1984. Mais entre 1984 et 1995, l'ouverture de la maison au public, donc il s'est passé 11 ans, il a fallu faire des travaux pour rendre le lieu compatible avec justement l'accueil du public, ce qui n'était pas évidemment pas sa vocation au départ. Il a fallu aussi, la maison était vétuste, était vieille. Chacun sait que après la mort d'Elsa, donc en 70, Aragon n'est venu ici que très irrégulièrement. L'entretien a sans doute donné un peu à laisser à désirer, et puis en même temps la vétusté. Bon, voilà. Donc il a fallu faire un certain nombre de travaux de 84 à 95. Il y a eu des difficultés parce que tout ça, ça nécessitait des financements. Donc, d'accord, l'État avait accepté le legs et donc avait accepté que le lieu devienne ouvert au public, etc. Mais en même temps, il fallait trouver de l'argent, trouver des subventions, trouver des crédits. Ça n'a pas été si facile et c'est Michel Appenmüller qui s'est coltiné tout ça. Qui a en même temps ensuite s'est battu pour trouver des statuts qui permettaient à ce lieu d'ouvrir, c'est-à-dire par exemple qui a créé le centre de recherche et de création Elsa Triolet Aragon, qui est l'association loi de 1901 qui est chargée de faire vivre la maison, d'en programmer les activités, d'accueillir le public, etc., dont nous sommes aujourd'hui les dirigeants. Bon. Et ensuite, Aragon avait beaucoup insisté, ça se faisait beaucoup à l'époque, sur l'idée de faire une fondation, Elsa Triolet Aragon. Il y a une fondation Picasso, une fondation Fernand Léger à Biote, etc. Enfin, c'était dans l'air du temps à l'époque. Sauf que, entre le moment où cette idée-là a été formulée pour la première fois, comme un souhait, par Aragon, et puis le moment où il a été possible, où il fallait s'atteler à créer cette fondation, le statut juridique des fondations avait changé. Il fallait désormais, pour créer une fondation, une mise de fonds, en capital très importante, en tout cas très, très au-delà des forces. Et donc ça aussi, ça a été une bataille que Michel a menée. Ça s'est d'abord appelé Association pour la Fondation, notre association, là, le centre de recherche de création Elsa Triolet-Aragon, c'est d'abord appelé Association pour la Fondation Elsa Triolet-Aragon. Enfin, voilà. Bon, donc il y a une bataille juridique. Dès lors qu'il y avait des moyens et que c'était nouveau, ça, il y avait une mobilisation. Et évidemment, c'est Michel Appelmuller qui a été... qui a mené toute cette bataille. Moi, je suis arrivé dans le lieu, tout ça était déjà réglé, quoi. Tout ce travail de minutie dans le suivi des réparations, des aménagements, de la rénovation, c'était prêt à fonctionner. D'ailleurs, ça a fonctionné de 95 à 2000 avec lui, hein, à 2001. Et puis, voilà. Donc je lui rends volontiers hommage parce qu'il le mérite d'avoir, c'était, je dois dire d'ailleurs que on se limite pas, hein, on cause, voilà, après vous prendrez ce que vous voudrez, mais je dois dire que moi quand j'ai été élu, ça a été quand même un peu à ma grande surprise, parce que justement je me comparais un peu à lui, lui c'était un chercheur, un prof de lettres, un universitaire, un chercheur aragonien et Elsa, sur Aragon et sur Elsa Triolet éminent. Il avait bien connu Aragon, il était chargé au sein du CNRS du dossier Elsa Triolet, enfin bon. Donc moi j'avais un profil tout à fait différent. Moi, j'étais prof de philo, avant d'avoir eu des engagements politiques qui avaient amené mon détachement, un peu de la tâche d'enseignant, mais qui, pour y revenir, eh bien, je me disais, mais je ne serais pas du tout capable de faire ça, parce que d'accord, j'adore Aragon, je suis un grand lecteur d'Aragon, c'est mon auteur préféré de ça, mais enfin, il y a une grande différence entre un point de vue amateur, je dirais, sur la question, et puis un parcours comme celui de Michel. Et c'est lui-même qui m'a un peu rassuré, qui m'a sur cette affaire, en me disant, mais si, tu peux y arriver très bien, enfin, qui m'a encouragé, soutenu, évidemment, c'était très précieux de pouvoir faire ça. Voilà. Et Caroline, je l'ai trouvée ici en arrivant, puisqu'à l'époque, elle était jeune, elle est toujours jeune, hein, mais encore plus à l'époque, c'est Michel Appelmuller qui t'a engagé. Hein.
Voilà, moi je suis arrivée en 1999, donc j'ai commencé à travailler avec Michel Appelmuller. Et voilà, donc au départ, je n'étais pas directrice adjointe, je suis arrivée au départ pour la communication. Et voilà, au fur et à mesure, il a semblé intéressant de développer un peu les activités de la maison, en fait, parce qu'au départ, on était vraiment sur... un lieu figé, hein, parce que c'est le principe, c'était d'avoir cette maison qui ne bougeait pas, qui restait là, et donc il fallait trouver un moyen de faire revenir les gens et surtout d'amener un nouveau public à avoir envie de découvrir le lieu. Voilà. Et donc moi, quinzaine d'années, peut-être, je sais, et ben je suis là pour développer toutes ces activités-là, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Et puis depuis, sa place n'a fait que croître dans la maison, et comme en plus, moi j'étais pas là à temps plein, mais qu'elle était là à temps plein, elle nous a semblé, même si l'équipe est très réduite, hein, en nombre je veux dire, mais de grande qualité, il nous a semblé qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un en permanence qui soit la direction, quoi, qui dise, voilà, qui sache prendre les décisions quand elles se posent, etc. Moi, c'était une... Bon, je pense que c'était pas la peine de mettre ça, mais enfin, c'était une des difficultés que j'avais eues, moi, quand... c'est que, c'est... Au début, je me disais, mais ça va être facile de diriger ce lieu, parce que c'est petit, c'est, etc. Bon. Et j'avais eu des difficultés, parce que les mails, les téléphones, les mêmes répétés, j'arrivais pas, quoi. Bon. Donc, Caroline, en plus, a très bien su faire, elle a constitué une équipe nouvelle, des gens qui sont partis, des gens qui sont venus. Là, on a une très très bonne... très très bonne équipe, très soudée, parce que on y viendra tout à l'heure, hein, je suppose, mais on reçoit
une équipe de gens qui font ça par passion, je pense. Oui. Que ça déjà c'est la première chose. Voilà. On est une petite équipe mais qui se développe de plus en plus. Voilà, on a été obligé, mm-hmm. parce que on reçoit de plus en plus de monde, donc on a étoffé l'équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui est toujours là, présente, et qui est très polyvalente. Je pense que c'est aussi l'intérêt de cette équipe-là, c'est des gens qui font les visites, qui créent des ateliers avec moi. Donc c'est vrai que
on touche d'ailleurs la contradiction, une contradiction, parce que nos subventions, enfin le lieu, quoi. Pour aller à l'essentiel, notre subvention, c'est notre principal subventionneur en collectivité publique, c'est l'État. Et cette subvention n'a pas bougé depuis 10 ans, quoi. Je ne sais pas avant, mais enfin, elle n'a pas bougé. Alors on nous dit, c'est formidable, nos correspondants de l'État, qui ne sont pas en cause personnellement dans la question, hein, mais c'est le discours qu'on nous tient, et il est de bonne guerre. Ils nous disent, oui, mais vous savez, tout diminue, et là, au contraire, vous devriez être heureux, parce que on vous maintient votre subvention. Bon, d'accord. Sauf que vous avez des charges nouvelles, nous avons, par exemple, on nous a imposé un loyer. Au départ, par exemple, le propriétaire des lieux étant l'État, l'association ne payait pas de loyer à l'État. Bon. Et je prends cet exemple parce qu'il y en a d'autres, mais. Et puis voilà que nos rapports ont été consignés dans une convention, les rapports entre l'association et l'État ont été consignés, et du coup, eh bien, nous sommes un peu comme des locataires face à un propriétaire. Et donc on nous met un loyer qui ne cesse d'augmenter à une allure région parisienne. Alors vous voyez, bon. Au départ, il était la première fois, je crois que c'était de 11 000 euros annuels, il en est maintenant à 21 000. Hein.
Ah, là, on vient d'apprendre qu'il a augmenté de 10 000 euros, là, en quelques mois. Donc,
Vous voyez, on peut toujours nous dire, la subvention ne bouge pas, il diminue. Il y a le pouvoir d'achat, l'inflation annuelle qui ronge tout ça, il y a l'augmentation du coût de la vie, et puis il y a des charges nouvelles qu'on n'avait pas au départ. Et donc évidemment il y a ça. Donc je veux dire que nous, on a à faire vivre le lieu, bon, je parle de la petite équipe là, qui est passionnée et tout ça, et c'est bien qu'elle soit passionnée, ça c'est tout le travail de Caroline, de savoir motiver, d'en faire une équipe unie, soudée, attachée à défendre ce lieu, et donc Aragon, etc. Parce qu'on a fait plein d'activités nouvelles dont on va vous parler, mais en même temps, c'est pas les salaires qui les motivent, parce que les salaires qu'on donne ici sont, pour certains, c'est le SMIC, et peut-être un peu plus, ou je sais pas, mais enfin, voilà, on veille chaque fois que c'est possible. Enfin, chaque année, on a un exercice douloureux, parce que il faut ajuster notre budget et l'équipe à qui on demande toujours plus. On lui demande toujours plus parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce qu'il y a de plus en plus d'activités, Et en même temps, les salaires, oui.
Non, mais on s'est.
Ne augmente pas. Donc,
on s'est aussi battu pour, justement, parce que à l'époque où moi je suis arrivée, la subvention de l'État représentait 80 ou 90% de notre budget. Et en fait, notre budget a été multiplié quasiment par deux. Donc, on a trouvé des sources de financement nous-mêmes. Donc en fait, on est arrivé à créer de l'autofinancement, ce qui est dans un lieu comme ça plutôt intéressant, et d'essayer de continuer quand même à faire des activités, même si cette subvention n'augmente pas. Et donc maintenant, la subvention d'État représente 30% de notre budget. Donc,
c'est-à-dire qu'elle ne représente même pas l'ensemble des salaires que nous payons. Non, mais je veux dire, donc, c'est original parce que en gros, si je prends l'ensemble des activités que nous déployons ici, c'est-à-dire des activités en accueil, de public, de visiteurs, enfin, toutes les activités, plus le démarchage de les mécénats privés, par exemple, qui est une grande partie de notre occupation, on trouve des villes, ou on trouve des entreprises, etc., qui sont d'accord pour passer des conventions avec nous, etc., ça fait des ressources. Bon. Eh bien, nous, notre activité, elle représente 56% de notre budget. Ce qui est, plus de la moitié, ce qui est, je crois, dans ce type de maison, ce qui est quand même rare.
Un domaine culturel.
Ouais. Un domaine culturel qui est rare. Mais, voilà. Non, mais, ce que je veux dire, c'est que pour la petite équipe de la maison, faut lui rendre hommage parce que franchement, ils ne regardent pas leurs heures. On a une personne pour le parc, c'est-à-dire 5 hectares. C'est énorme, hein, parce que les arbres, tout ça, dès qu'il y en a un, pouf, les trucs de sécurité sont considérables. Puis il y a un petit peu la dégradation, l'usure de la maison, hein, le moulin, l'eau, tout ça, c'est joli, mais on a eu des portes d'écluses là qui s'est cassée là. Qui s'est cassé, tout simplement, j'allais dire qu'il s'est cassé la figure. Mais voilà, bon, donc faut les arbres, dès qu'il y en a un qui est sec, il faut l'abattre, c'est tout un travail d'entretien, de pelouse, de machin, de plantation l'été, bon là évidemment c'est un peu. Voilà. Et tout ça pour des. En nombre, on est. Quand on compare, parce que Caroline a été élue vice-présidente de l'association qui regroupe toutes les maisons d'écrivains, ça s'appelle la Fédération des maisons d'écrivains des patrimoines littéraires. En gros, c'est une sorte de syndicat, je vois comment on peut dire, enfin, qui regroupe toutes les maisons, ou quasi toutes, hein, à travers le pays. Elle est vice-présidente, et comme ces maisons ont des statuts très divers, il y en a qui sont propriété publique, d'autres propriété privée, il y en a qui sont gérés par des collectivités territoriales de niveaux différents. Nous, notre interlocuteur, c'est l'État, mais il y en a, c'est assez rare, il y en a où c'est la ville, où c'est le conseil général, le conseil régional, etc. Je veux dire, c'est pour une activité comparable à la nôtre, donc Caroline me dit que si on appliquait le statut de la fonction publique ici, il faudrait beaucoup plus de salariés. Hein. Voilà. Donc,
et beaucoup plus d'argent.
Et beaucoup plus d'argent.
Parce qu'on travaille beaucoup, en fait, on se débrouille souvent. Voilà. On a,
c'est la passion.
L'association nous permet d'avoir un peu de latitude là-dessus, ouais. Et de pouvoir gérer les achats, gérer les. Voilà, donc, se débrouiller un peu avec. Chose, etc. Et on le voit notamment pour toutes les expositions, on fait beaucoup d'expositions d'art contemporain, je pense, de grande qualité, avec des budgets qui paraissent dérisoires par rapport aux autres musées. Mais on le fait parce que on s'occupe des transports nous-mêmes, on se débrouille, on fait l'accrochage nous-mêmes, on fait tout. Voilà. Mais ce qui rend le travail aussi très intéressant. Hein, donc, voilà. Merci.
Et le conseil d'administration donc est composé de qui? Alors, et quel est son rôle?
Le conseil d'administration est composé de membres fondateurs, pour l'essentiel, de membres fondateurs de l'association, et de quelques membres qui sont renouvelés, mais l'essentiel ce sont les membres fondateurs. Donc la présidente depuis le début c'est Edmond de Charleroi, et moi aussi je veux lui rendre hommage parce que je trouve que c'est une femme admirable, parce que vu les tâches qu'elle a, eh bien, on a toujours pu lui demander quoi que ce soit ici pour la maison, elle l'a toujours fait.
Elle est très présente.
Je reviens à la question. Edmond Charleroi, présidente, on a maintenant un vice-président qui est Jean-Paul Escande, notre secrétaire perpétuel c'est Jean Resta, hein, donc le poète et l'exécuteur testamentaire d'Aragon, héritier d'Aragon. Et puis on a en gros toutes les parties prenantes, je dirais, dans ce conseil d'administration de l'Aragonie, si je pense, avec des guillemets. C'est-à-dire, au fond, donc il y a l'État, donc nous avons des représentants de l'État, nous avons des représentants aussi de la Bibliothèque nationale, nous, parce que c'est là que sont les manuscrits, donc Marie-Odile Germain est membre de notre conseil d'administration, nous avons aussi le préfet des Yvelines, représentant de l'État, nous avons des élus du coin, donc le président du conseil général, le maire de, ou la maire de, enfin, les Saint-Arnoux, voilà, hein, plus, donc, l'État, Gallimard, est membre fondateur, et puis, il y a le Parti communiste qui a des élus au conseil d'administration, qui a des membres au conseil d'administration, parce qu'ils étaient évidemment très impliqués, ils le sont d'ailleurs toujours, c'est à saluer là aussi, alors que les difficultés financières du Parti communiste sont notoires, il tient toujours à maintenir sa participation financière à la maison, au salon. Et puis des écrivains, alors des écrivains de tous horizons, puisqu'on a eu, alors il y a par exemple, c'est pas un écrivain, mais je pensais à Jean Ferrat par exemple, il y avait Jean Dutour, il y avait François Nourricier, bon, malheureusement ils sont décédés, il y avait Jean d'Ormesson, mais qui lui, on nous a dit, il est toujours vivant, Dieu soit loué, mais nous a dit, utilisez mon nom, mais voilà. Voilà, en gros, hein, voilà. Donc, on a un petit problème de renouvellement, d'ailleurs, que le conseil d'administration est bien conscient et qu'on va traiter calmement, en essayant de. On a aussi, par exemple, François Taillandier dans notre conseil d'administration qui est un écrivain plus jeune, bon, on a décidé de gens pour qui Aragon a compté, et voilà, donc ça c'est notre conseil d'administration, et puis nous avons qui se réunit une fois l'an, et puis nous avons un bureau qui se réunit deux fois par an, et puis nous avons on est membre aussi de la Fondation de France, puisque on n'a pas pu créer une fondation Aragon, Elsa Triolet, je disais tout à l'heure que c'était au départ l'idée, mais que le statut ayant changé, nous avons le droit néanmoins d'avoir l'appellation de fondation, parce que nous sommes, nous sommes abrités au sein d'une grande fondation, qui est la Fondation de France. Alors, nous pouvons utiliser l'appellation de Fondation Elsa Triolet Louis Aragon, abritée au sein de la Fondation de France. Bon, il suffit de le dire une fois pour comprendre que c'est décourageant. en termes de communication, et que par conséquent on dit Maison Aragon, et voilà, l'affaire est jouée. Mais ça nous permet... Triolet Aragon. Pourquoi j'ai dit quoi ?
J'ai dit Maison Aragon. Ah,
moins de moi, mais oui, mais voilà, donc on a c'est un moyen pour nous là de par exemple de recueillir des dons. Ce qu'on ne peut pas faire dans l'association, on peut le faire par la fondation. Des dons, alors on espère par exemple développer un peu ça, puisqu'il y a maintenant une loi sur le mécénat qui prévoit des déductions fiscales pour... bon, donc on espère que... Voilà, c'est quand même... Alors, ça, c'était une... trouver des ressources nouvelles, parce que cette maison se développant, des ressources, évidemment, ça procure des recettes, mais il en faut aussi trouver des nouvelles.
Alors, la maison a aussi un aspect qui est d'être centre de recherche. Donc, j'aurais aimé que vous exposiez un petit peu quelles sont les ressources de la maison Friolet Aragon, ressources intéressantes pour les chercheurs.
Alors, peut-être avant de venir à cette question-là, peut-être une intuition de Michel Appelmüller. Je pense qu'au départ, l'idée qu'il avait était sans doute de faire de ce lieu un lieu voué à la recherche. C'est-à-dire, en gros, d'en faire un lieu où des chercheurs pourraient venir, etc. À l'origine, il était même prévu que les manuscrits d'Aragon et d'Elsa Triolet viennent ici, à Saint-Arnoult. Que ça devienne, au fond, après la destruction, le fait que l'appartement de la rue de Varennes était... a été rendu à son propriétaire, ça deviendrait, de fait, le seul lieu aragonien. Et l'idée de Michel était sans doute d'en faire une espèce de ruche, enfin, vous voyez, un peu fermée, etc. C'était sans doute un peu l'idée de Michel au départ. Mais lui-même avait amorcé un virage, d'abord parce que les manuscrits ne sont pas venus ici. Les manuscrits propriété du CNRS sont conservés à la Bibliothèque de France à Paris. Pas la très grande, mais celle de la rue de Richelieu, comme vous savez, pour y avoir passé de longues heures. Mais, voilà. Donc, on a un petit peu, nous, changer l'orientation. On en parlera tout à l'heure. On s'est adapté. Déjà, Michel avait commencé de le faire, d'où le recrutement de Caroline, ce qu'elle disait tout à l'heure. Mais pour les chercheurs, alors, Caroline va sans doute vous donner des noms de nombreux exemples de demandes, mais moi, je viens de lire, par exemple, le livre de Pierre Juquin, qu'il a eu la grande gentillesse de m'adresser son éditeur, de me faire adresser par son éditeur, mais sur ordinateur, ce qui fait que je me suis tapé 800 pages sur l'ordinateur et que ma vue a baissé. Ça, c'est sûr. Alors, je vois par exemple que, non, je dis ça pour plaisanter, bien sûr, mais dans ce livre, c'est par exemple très intéressant de voir le nombre de fois où Pierre Juquin écrit quasiment « Je suis allé à la bibliothèque du Moulin, j'ai trouvé ceci. Dans la bibliothèque du Moulin, j'ai vérifié tel livre y est. » Donc, vous voyez, par exemple, les livres... alors, il s'agit d'une biographie, hein, le livre de Pierre Juquin, donc... par exemple, les livres d'enfance d'Aragon et les livres lus par l'enfant, ils sont là. Par exemple, je dis au hasard quelques exemples que j'ai notés dans la perspective de notre rencontre. Le feu de Barbus. Bon, c'est l'édition originale de 1916 qui est là. C'est pas une édition postérieure, etc. Il y a un livre de Nancy Cunard sur les Noirs aux États-Unis. Par exemple, Juquin creuse une question peu peu traité jusqu'à présent, qui est la question de la connaissance par Aragon des textes de Marx. Et voilà, il a scruté les éditions de Marx présentes ici, celles dont les pages sont coupées, celles dont les pages ne sont pas coupées, puisque à l'époque, bon, il pouvait faire la distinction, donc les livres lus et non lus. Aragon marque assez peu, ne met pas beaucoup de notes dans ses livres, mais il en met quand même, quand c'est important, il y a des choses soulignées, il y a des trucs, bon, voilà. Donc, par exemple, Jupin en tire des conséquences. Il semble que Aragon connaissait bien le manifeste du Parti communiste, connaissait bien aussi l'idéologie allemande, parce qu'en plus, il y a les traductions françaises, le moment des traductions françaises, toute l'histoire des traductions de Marx en français, c'est une longue histoire, et il avait par exemple surtout ici l'édition Coste et Molitor, puis après ce que les éditions sociales ont traduit, voilà un exemple qui peut être, je dis pas résolu, mais en tout cas qui peut être largement posé à partir de la bibliothèque. De même, l'édition de l'adresse inaugurale de l'International, de l'Association Internationale des Travailleurs, créée par Marx à Londres, ici on a la première édition, l'édition de 1921, en français. Bon, ce qui veut dire qu'Aragon, 1921, c'est un peu avant la date d'adhésion proclamée de janvier 1927, l'adhésion au Parti communiste. Bon, voilà. De même, on trouve ici le texte et les dédicaces de Colvaillon Couturier, un homme qui a eu certaine importance. La dédicace de Malraux, de l'espoir plutôt, de Malraux à Aragon et à Isa Triolet et à Aragon. Les dédicaces, c'est évidemment l'autre aspect important de la bibliothèque. Bon, alors, puisqu'on n'a pas les manuscrits ici, puisqu'ils sont à Paris, bon, il ne s'agit pas d'ouvrir une veine querelle, d'autant que maintenant, je suppose que les manuscrits d'édition de la Pléiade ayant été faits, tout est à peu près recensé, je pense que ce sera peut-être numérisé un jour. Bon, enfin, c'est tout un travail, mais enfin, la présence du papier lui-même, qui était évidemment importante pendant les années, bon, a perdu un peu maintenant grâce aux moyens techniques de son affaire. Donc, pour les chercheurs ici, on a la bibliothèque, et Jupin montre qu'à l'évidence, c'est important. Mais il y a tous les coups de téléphone qui arrivent ici, en tant de chercheurs ou d'étudiants, et ça, Caroline les reçoit, elle va vous en parler.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait très peu de demandes de chercheurs. C'était vraiment assez rare. Et le fait qu'on ait développé l'activité, que la maison soit de plus en plus connue, ça a aussi développé les demandes de recherche. Ça c'est un premier point, et le deuxième point, je pense que c'est aussi l'internet et les emails, etc., qui fait qu'on a énormément de demandes par mail. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas une demande de chercheurs, alors plus ou moins importante, soit c'est des petites recherches que nous on peut faire, donc on va dans la bibliothèque, on fait un scan d'une dédicace, ou on voit si le livre est là ou pas, ou sinon c'est des recherches plus importantes, où là on demande à avoir le projet, on reçoit les gens ici, et on peut les accueillir une fois, deux fois, dix fois, s'il faut. Donc ça, on a de plus en plus aussi de gros projets. On a beaucoup travaillé par exemple avec la commissaire de l'exposition Josette Rall pour Aragon et l'art moderne qui avait eu au musée de la Poste. On a plein de choses comme ça. Il y a à la fois les livres qui se trouvent dans la bibliothèque, il y a les dédicaces aussi, donc ça c'est un projet, c'est de numériser tout ça. Parce que la première difficulté, je dirais, c'est que le fonds n'est pas informatisé. Il est inventorié mais pas informatisé, donc c'est vrai que pour nous, c'est pas des plus pratiques. Donc ça serait un volet qu'on aimerait faire, enfin, quand on pourra. Deuxième chose, les dédicaces ne sont pas scannées, donc ça aussi c'est un gros travail qu'il faudra réaliser, et je pense qu'il faudra... Et la troisième chose pour laquelle on est très 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 sollicité, c'est le fond de photo. On a un fond de photo extraordinaire ici, notamment des photos pas très connues, d'Aragon et d'Elsa, par des photographes, eux, qui sont très connus. Donc voilà, donc on a vraiment un fond de photo formidable. Là, on l'a bien vu, c'est l'année du 30e anniversaire de la mort d'Aragon. On a été excessivement sollicité pour les hors-séries, hors-séries du monde, hors-séries de l'humanité. Enfin voilà, donc tous les gens cherchent des photos et s'adressent à nous.
Ils en veulent d'autres que celles qu'on connaît déjà par cœur.
Et donc là, on a commencé de mettre en place une base de données de photos avec à qui demander les droits, etc. etc. Donc c'est un gros travail. Et c'est vrai que normalement, ce n'est pas le travail de l'association. Au départ, c'est l'État qui était encore
bibliothécaire.
Et donc on a plus le poste. Alors soit on dit bon, c'est pas notre travail, on ne le fait pas, et ce serait dommage de ne plus répondre à aucune demande de recherche. Donc voilà, donc il y a des périodes où c'est très compliqué quand on nous appelle au mois de juin et qu'on a beaucoup d'activités ici au Moulin, mais voilà, on essaye quand même de répondre à toutes les demandes.
D'ailleurs, à très franchement parler, on est en train de réfléchir, alors je ne sais pas, il faudra sans doute qu'on rediscute avec l'État, mais indépendamment de la question des manuscrits, que nous considérons comme désormais tranchés. Et puis je disais, bon, elle n'a plus le même intérêt qu'elle présentait il y a 30 ans. Hein. Mais il y a des gens qui ont des collections, mais qui sont des passionnés d'Aragon, qui ont des collections, que ce soit de la bibliophilie, ou des textes très très rares, par exemple des tracts de la période surréaliste. Bon, la collection des étoiles, par exemple. Bon, alors, c'est paru en bouquin, mais au départ, voilà. Donc, que va devenir ce patrimoine-là, qui pour l'instant est privé, si ça reste dans les mains d'héritiers, nous n'avons rien à y redire, évidemment. Mais imaginons que la question se pose, est-ce que un lieu comme le Moulin n'a pas vocation, en quelque sorte, puisque c'est le seul lieu aragonien existant aujourd'hui, à recueillir. Bon. De même, par exemple, j'avais été sollicité par Wolfgang Babylas, qui avait été très affecté par la mort de son épouse, et qui est maintenant un vieux monsieur, qui est parti de chez lui, qui en a obligé, enfin, je crois que les promoteurs immobiliers ne se conduisent pas très bien avec lui en Allemagne. Bon. Et il m'avait envoyé un mail pour me dire, mais le site, bon, tout le monde connaît son site, qui est magnifique, etc., tous ceux avec quoi j'ai constitué ce site, je l'ai. C'est sur le site, mais c'est du papier aussi. Bon. Et il m'avait dit, je me pose la question de savoir est-ce que le Moulin ne serait pas le lieu pour accueillir, parce que quand je vais être mort, alors je lui disais, mais vous avez le temps, oui d'accord, mais enfin bon, la question va se poser. Alors, bon, je crois que finalement il a trouvé une autre solution en Allemagne, dans une université, mais il disait, sa crainte, c'était de dire, voilà, moi disparu, ça ne va plus intéresser personne et ça va aller à la poubelle. Alors, vous voyez, je trouve que, bon, là, c'est évidemment une situation limite, mais il y a des tas de gens comme ça qui ont des...
On a eu des dons, d'ailleurs.
Oui, on a des dons, oui, de que ce soit de toile ou de... Donc, la question, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là une vocation un peu nouvelle pour le Moulin, pour recueillir ces des choses. Elle parlait des photos.
Je reviens un petit peu en arrière. Oui, donc il y a les photos, mais il y a aussi les cartes postales, donc qui ont fait l'objet d'une expo, et puis des documents de ce genre aussi.
Oui, alors par exemple, il y a plusieurs choses qu'on a, à partir desquelles on a fait des expositions, et on a fait l'exposition sur Maïakovski, on a remontré l'exposition d'Elsa, qui avait été faite en 1967 avec Chem. On a la chance ici d'avoir tous les documents préparatoires à l'exposition, donc dans des cartons, etc., avec un fond de photo là aussi sur Maïakovski qui est extraordinaire. On avait tous ces documents préparatoires, mais on n'avait pas les panneaux réalisés. Et on a eu la chance, en discutant avec Jacques Kralik, de se rendre compte que lui avait les photos des panneaux, pas les panneaux, mais les photos des panneaux.
Et donc, cette exposition, comme il le raconte.
Donc on a pu remontrer cette exposition, c'était il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et puis donc, pareil, quand Josette Rall a monté l'exposition sur l'art moderne, elle est venue travailler longtemps ici, et puis je lui dis, écoute, ça serait peut-être intéressant de montrer ce que je pense être une œuvre plastique d'Aragon, qui est les murs de l'appartement parisien. Et donc, on a ce fond de... tous les murs, en fait, de l'appartement parisien d'Aragon, ont été dépunaisés, classés et sont conservés ici au moulin. Donc on a pu là remontrer ça, faire reconstruire ce puzzle géant. On a reconstitué qu'une pièce, mais on peut même quasiment reconstituer tout l'appartement parisien. Donc ça aussi c'est une chose extraordinaire. On a énormément de documents dans la bibliothèque, hein. On a aussi toutes les affiches, on a tous les programmes de théâtre, c'est très très il y a énormément de choses, et au fur et à mesure on découvre les choses, et puis on essaye de les remontrer, etc. Et on essaye de leur donner une deuxième vie. Par exemple, l'exposition de Maïakovski, il y avait un musée londonien qui était intéressé, donc peut-être que ça va déboucher sur une exposition aussi ailleurs, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment des... Je pense que là on a vraiment un trésor qu'il va falloir un peu exploiter un peu plus au fur et à mesure. Parce que là je vois les réactions du public par rapport à l'exposition du 56 rue de Varennes, elles sont extraordinaires. Les gens passent énormément de temps à regarder les documents. Et en plus ici, dans ce lieu-là où on a le moulin qui est complètement différent, là, on a deux facettes d'Aragon et on a la maison de campagne en fait, et puis l'appartement parisien qui était complètement
Et
puis je fais un petit écart aussi sur Elsa Triolet, donc il y a aussi des documents qui concernent Elsa Triolet, enfin il y a toute sa bibliothèque, les choses en russe.
Oui, quand on dit Aragon, c'est les deux.
C'est les deux.
C'est un raccourci, puisque c'est le... Mais... Bon, d'accord. Oui,
mais
j'ai bien compris qu'il ne fallait pas oublier.
Mais ça intéresse aussi les... Bien sûr, Elsa, il y a un fond important. Et je pense qu'il y a un fond russe très intéressant. Oui. Notamment, pour l'exposition Maïakovski. Moi, j'en ai discuté un peu avec des gens du musée Maïakovski en Russie, et il y a des documents qui ne connaissent absolument pas, et qui n'ont pas. Donc, on les a pas scannés, on n'a pas d'inventaire là-dessus. Il y a des films, nous, dans notre équipe, on n'a personne qui parle le russe, donc ça a été compliqué, parce qu'il y a des choses que j'avais du mal à comprendre. Mais maintenant, je sais qu'on aura quelqu'un.
Mais par exemple, pour que vous sachiez, comme c'était l'année en 2000, je ne sais plus combien, 2010, l'année France-Russie, Russie-France, eh bien, nous avons eu une exposition, alors au départ, ça devait être dans les deux pays, une exposition sur les maisons d'écrivains. Bon, 5 maisons d'écrivains russes, 5 maisons d'écrivains français. des photos, etc. Donc ce sont les Russes qui ont été on a eu un photographe, etc. Nous avons accueilli le petit-fils de Tolstoï, puisque c'est lui
qui est à l'origine du projet.
C'est là où on se rend compte d'ailleurs que le Tolstoï en Russie et Aragon en France, même si nous on est très très actifs et tout ça, on ne joue pas dans la même catégorie, on ne joue pas dans la même division. Là-bas, les maisons d'écrivains, c'est autre chose. Mais enfin, on a eu, nous étions un des cinq maisons françaises, d'écrivains français, et nous avons eu une exposition en plein cœur de Moscou, Caroline, au musée littéraire Pushkin. Bah, Aragon, en ce moment à Moscou, j'aime autant vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'air du temps, comme on dit. Bon. Et puis, on parlait, pour les chercheurs, moi je disais, il y a peut-être une vocation nouvelle qui se dessine pour la maison, c'est-à-dire de recueillir un peu des patrimoines aragoniens un peu dispersés, là, etc. Je trouve que c'est un lieu, on est un peu un lieu fédérateur. Elle parlait des photos, elle parlait de tous les documents qu'il y a ici, qu'on a maintenant, qu'on va pouvoir montrer, mais je crois qu'il y a aussi les thèses, par exemple.
On aimerait bien avoir une copie de toutes les thèses.
Toutes les thèses qui ont été passées sur Aragon, il y en a 67, je crois. S'il y a un endroit peut-être où elles devraient être, et alors pas pour les enfermer, on comprend bien, quoi. Peut-être pour les numériser, je sais pas quoi. En tout cas, s'il y a un lieu fédérateur de tout ce qui peut être Aragon et les Atriolais aujourd'hui, bah, c'est ici, voilà. Donc on est tout à fait ouvert à cette question de Aragon et la recherche aujourd'hui, Aragon et les Atriolais et la recherche aujourd'hui.
Et alors, la maison se développe aussi du point de vue des expositions et de la renommée de ces expositions dans ces derniers temps.
Oui, ben, c'est-à-dire que, voilà, je disais tout à l'heure que on a un petit peu déplacé le point de l'orientation, quoi, par rapport à ce qui était imaginé au début. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire une orientation grand public. On conserve bien entendu tout ce que ce lieu peut avoir d'intéressant pour les chercheurs, on est prêt à les accueillir, etc. Hein. Mais en même temps, on s'est dit, il faut que ce lieu, ce soit un lieu grand public. Et c'est là où on a un petit peu le plus sans doute réfléchi pour orienter notre action, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'une maison, écrivain ? C'est un lieu qui peut faire médiation, quoi. C'est-à-dire que si tu dis à des gens, à du grand public, voilà, tenez, Aragon, prenez des livres d'Aragon, lisez-les, ou les Atriolais, hein, je répète plus, mais bon, c'est entendu que c'était les deux. T'as le sentiment que c'est, il y a un petit mur, là, il y a un petit fossé qui s'est creusé entre les lecteurs de livres, et nous on voit bien les gens qui viennent ici, la poésie dans leur vie, ça a beaucoup reculé, hein, et on comprend pourquoi, parce que ça n'existe plus dans les médias, etc. Bon. Moi je donne souvent l'exemple de ce poème, de la poésie de la résistance, tu vois, quand les avions anglais jettent à la population française la rose et le résultat, va faire comprendre, donc un poème, pour recréer l'espoir, pour dynamiser, pour créer la volonté, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du rassemblement nécessaire, etc., va faire comprendre ça à un môme de 15 ans, 16 ans, que la poésie, à ce moment-là, ça pouvait être une arme. Souvent, ils ouvrent quand on fait ça, ils ouvrent des yeux ronds. Bon. Donc, la maison, si tu veux, c'est moins complexant à visiter, parce que la maison, on en a une. Bon. Donc, faut pas croire, c'est ça que je veux dire, c'est que tous les gens qui viennent ici, et plus on en reçoit en nombre, plus évidemment ils sont divers, faut pas croire que c'est tous des pèlerins d'Aragon qui viennent ici pour se ressourcer, pour retrouver quelque chose, hein. Ils viennent ici parce que pour des raisons purement touristiques, ça se visite, voilà, bon, c'est un homme célèbre, bon, les maisons d'hommes célèbres, ça se visite, voilà, bon, bah, parfait, très bien. Donc nous, l'idée, c'est plutôt, puisque la maison ne leur apparaît pas insurmontable à visiter, alors que lire un livre d'Aragon, ça leur a d'emblée comme ça, ben, on utilise la maison comme médiation, comme moyen d'aller, en quelque sorte, du tourisme à la culture, ou du tourisme à la lecture. Parce que quand même, malgré tout, d'accord, Aragon nous a laissé cette maison et nous y sommes très attachés, mais enfin, il nous a quand même laissé des livres, des bonheurs de lecture, des... Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on utilise la maison, je dirais, pour faire de la transmission et de la médiation. La transmission, parce que il y a 30 ans qu'il est mort, et autrement dit, quelqu'un qui a 40, 45 ans aujourd'hui, mettons, hein, si on veut bien donner 10, 15 ans pour devenir un peu adulte, bon, bah, quelqu'un qui a 45 ans, c'est quand même une grande partie de la population, n'a rien connu de ce qu'a vécu Aragon. Bon. Donc, faut faire de la transmission, c'est-à-dire qu'il faut parler à des plus jeunes, il faut, voilà, c'est tout ce que Caroline vous en dira sans doute deux mots, c'est tout ce qu'on fait ici sur les scolaires, hein. faut transmettre, faut, vous voyez, moi souvent, on dit des poèmes qui sont évidemment archi connus des gens qui ont un certain âge, style La Rose del Reseda, style le Gabriel Péri, etc., bon, mais ils sont totalement inconnus, ça veut rien dire. On voit même, par exemple, Manouchian, la fiche rouge, etc. Bon, d'accord, ça a été chanté par Ferré, mais en 1961, et depuis, bon, voilà. Donc, il y a un public âgé qui connaît, ou qui a ça dans l'oreille, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas. Donc, ce lieu, on l'utilise comme un moyen de transmission, et puis comme un moyen de médiation. C'est-à-dire que si on met les gens immédiatement au contact en disant « Aragon, c'est les livres », on a, voilà. Et donc là, on passe par la maison. C'est comme ça qu'on a conçu la visite de la maison. Elle est forcément accompagnée. Parce que, précisément, on veut faire parler les objets. Et on les fait parler en récitant des poèmes, en disant des textes, des lettres d'Elsa, etc. Et souvent, au fond, on poursuit une idée sans la dire. L'idée qu'on poursuit, c'est de dire aux gens, mais c'est pour vous, ne passez pas à côté de ça, il a écrit ça pour vous, voyez, ne passez pas à côté de la poésie, bon, et si vous leur dites comme ça, bon, bah, d'accord, alors on fait la démonstration, sans le dire, et souvent à la fin, quand on est devant les livres, là, qu'on descend de l'escalier, les gens nous disent, ou disent aux accompagnatrices, ah ben dites donc ce poème que vous nous avez dit, là, il est dans quel livre? Parce que, vous voyez, je voudrais l'offrir, hein. Alors bon, bah, on se dit, voilà, on n'a pas perdu une temps. Donc voilà, la maison comme transmission et médiation, comme moyen de transmission et moyen de médiation.
Et alors, il y a une autre médiation, et je crois qu'il tenait aussi à cœur à Aragon, c'est celle donc de faire connaître la peinture, notamment la peinture contemporaine. Et là, la Maison Aragon joue aussi un grand rôle avec les expositions qui ont eu lieu de Gilles Aiglet, de Titus Carmel et d'autres peintres contemporains.
Ça, Aragon, quand il lègue cette maison à l'État, il veut que ça devienne un lieu vivant, ouvert à la recherche et à la création contemporaine. Donc, il nous avait déjà tout dit, hein, avec cette phrase-là, donc c'est ce qu'on essaye de faire donc, avec les expositions, et c'est vrai qu'on ne fait que des artistes de notre temps, en fait, pas du temps d'Aragon, parce que ça serait pas, on n'aurait pas, je pense qu'ils sont déjà très connus, etc., et donc on essaye plutôt de faire des artistes qui n'ont pas forcément de lien. Alors des fois on le découvre, hein, quand on a fait Monori par exemple, on l'avait choisi parce que ça nous semblait être un artiste très important et qu'il fallait présenter aux gens ici. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'Aragon avait punaisé les cartons d'immatriculation de Monory dans son appartement. Donc il y avait quand même un lien, finalement. Mm-hmm. Donc,
voilà. Wadami et Fromanger, de grands pas, ont fait des portraits.
Oui,
d'Aragon.
Oui, alors il y a
Kleinman, j'ai dit, Kleinman, c'est... C'est un peintre qui a, que Aragon a connu, pour lequel il a fait une petite préface, qui a envoyé les documents.
Et donc, c'est vrai que... Alors, on a cette chance-là, je pense que c'est des artistes qui n'ont pas du tout besoin de faire une exposition à Saint-Armand-en-Yvelines.
C'est un snobisme.
Voilà, et c'est vraiment le fait que ce soit la maison d'Aragon fait qu'on peut accueillir de telles personnalités ici. Et voilà, et donc ça ouvre aussi, ça permet aussi de faire revenir les gens aussi. Les gens sont toujours contents de redécouvrir la maison avec un autre aspect, parce que quand on fait des expositions de sculptures, par exemple, dans le parc, ça change complètement la physionomie du parc et des lieux, en fait. Hein. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle découverte des lieux par l'artiste qui est exposé, quoi. Donc, voilà. Donc, on en fait entre... Bon, on a dû réduire un peu le nombre d'expositions là, pour des raisons budgétaires. Hein,
voir au chapitre précédent.
Voilà. Mais donc, on maintient quand même au moins 3 expositions par an. Mm-hmm. Les expositions la création contemporaine, c'est à la fois les expositions mais à la fois aussi toutes les autres manifestations qu'on peut faire. On accueille du théâtre, de la musique, de la poésie, etc.
Donc,
et même des fois on a créé un événement qui s'appelle Poésie Buissonnière, par exemple, qui est un festival d'art de la rue. Où la poésie est très importante dans chaque spectacle. En fait, là, c'est vraiment pour amener un public qui ne viendrait pas spontanément dans une maison d'écrivains et qui viendrait, par contre, pour des spectacles d'art de rue. Et une fois qu'ils ont poussé la porte, et bien souvent, ils reviennent pour venir découvrir le lieu. Donc, voilà. Donc ça, c'est une manifestation qui se passe au beau jour. Et le parc... accueille il y a une douzaine de compagnies qui s'installent et voilà, et donc on a une vingtaine de spectacles dans l'après-midi, mais donc on a plein de manifestations comme ça qui sont des manifestations où on veut montrer que la poésie peut avoir des facettes très différentes et peut toucher tout le monde, en fait, hein,
c'est vraiment... Alors c'est important
du point de vue du public, donc comment est-ce que ce public a évolué? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ses réactions, y compris aussi dans vos formes d'accueil?
D'abord, les chiffres, puisque je ne veux pas dire qu'on est, on ne vit pas avec l'audimat, hein, mais quand même, on a accueilli, tous visiteurs confondus, 7082 personnes en 2005, 9012 en 2006, je vais jusqu'à aujourd'hui, 18556 en 2011. Et là, je regarde Caroline parce qu'elle ne veut pas que... Moi, j'ai plutôt tendance à faire, tu sais, c'est les manifs, quoi, il y a selon les organisateurs et selon la police. Alors, moi, c'est plutôt selon les organisateurs.
Non, ça, c'est les vrais chiffres.
Alors, voilà, c'est les vrais chiffres.
Ouais. Et cette année, on devrait atteindre les 20 000.
On devrait dépasser les 20 000.
Voilà. Non.
Et dépasser. Bon, dès que c'est 20 000 2, on a dépassé les 20 000. Voilà.
D'accord.
Bon, enfin, c'est pour vous dire quand même qu'on a... On est content, on se réjouit évidemment de constater qu'on a plus que doublé en seulement 6 ans. Bon. Donc, et ça, c'est dû à l'activité de la maison. Par exemple, on parlait des expositions. Mais les expositions, c'est bien sûr un choix d'Aragon de faire que ce lieu demeure un lieu vivant et non pas une espèce de mausolée, non pas de la face rouge, mais de Saint-Arnoux. Hein. Donc, ça demeure vivant. Mais en même temps, ça fidélise un public pour d'autres raisons que la visite de la maison. Parce que, par définition même, la visite de la partie habitée de la maison, par les deux écrivains, elle ne change pas. Et par conséquent, une fois que tu l'as vue, tu l'as vue, tu ne vas pas revenir tous les 8 jours ou tous les ans pour la voir, elle n'a pas changé. Alors, tu peux, effectivement, avec des amis, revenir une deuxième fois, mais bon. Donc c'est limité, par définition même. Le renouvellement des visites du public de ce genre de lieu est limité. Donc, il faut toujours des nouveaux. Alors que là, grâce à ces expositions, et au fait que la maison a acquis un rayonnement, grâce à tous les peintres qui sont venus ici, et qui sont connus, et qui marchent au coup de cœur, hein, c'est ce que disait Caroline, ce qui les attire ici, c'est pas de faire une exposition à Saint-Arnaud en Yvelines, parce que c'est un petit trou dans les Yvelines, et voilà. Mais ce qui les attire, c'est que c'est un lieu où on fait vivre une certaine conception de la culture, où on a des spectres, quoi, qui rôdent, hein, dans le parc, là, dans la maison, on a des grands noms, on a une démarche, on veut tirer les gens vers le haut, on veut leur faire découvrir des tas de choses qui les enrichissent, bon. Donc, ils disent, mais c'est formidable ce que vous faites, donc d'accord, on est d'accord, on expose. C'est ni des questions strictes, ni des questions, on n'a pas de contact, ou très peu, avec les galeristes, par exemple, où on est en dehors du commerce. Ce qui leur plaît à ces peintres, c'est évidemment ce qu'on fait. Donc, et comme ça, on a réussi à fidéliser un public qui vient pour les vernissages, qui vient pour rencontrer des peintres, pour rencontrer des écrivains, des poètes, etc. Enfin, tout ce qu'on fait dans la saison culturelle ici, qui, elle, est évidemment renouvelée chaque année. Donc, en gros, on peut revenir chaque année ici, il y a quelque chose qu'on n'y a pas vu l'année précédente et qu'on ne verra pas l'année suivante. Donc ça aussi c'est un facteur important dans l'ancrage régional d'abord, hein, du public, puisqu'on vise évidemment, on commence par le plus simple, c'est-à-dire les gens qui sont là. Donc ça c'est une première chose, le moyen de fidéliser, en quelque sorte, avant, si tu veux. Il y avait ici des gens qui venaient pour Aragon, et qui, en arrivant ici, découvraient qu'il y avait des expositions de peintres. Alors que là, maintenant, il y en a qui viennent pour des expositions de peintres, et qui se rendent compte, en arrivant, que c'est, ah tiens, c'est la maison d'Aragon. Bah, on va la visiter aussi, puisqu'on est là. Voilà. Donc, on a réussi un peu à créer, là, une petite dynamique, disons, un peu, et qui fait qu'on a un public de fidèles. Et dans les Yvelines, il y a beaucoup de lieux, dans les Yvelines, il y a beaucoup de lieux patrimoniaux, hein, à commencer par les plus grands, Versailles, etc., des châteaux, etc., mais des lieux voués à l'art contemporain, à la poésie, etc., il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on essaie de développer ça. Et puis, la deuxième chose, c'est... que disait Caroline à propos du public qu'on a ici, et qu'on vise en tout cas. On a fait une petite enquête, hein, sur le public des maisons d'écrivains, et on s'est rendu compte que notre public était ou très jeune, c'est-à-dire scolaire, alors quand même on va en parler après, mais les scolarisés, c'est quand même notre une grande fierté, parce que il y a quoi, 5 ans, 6 ans, il n'y avait rien. Hein, zéro scolaire. Et maintenant, on en est à 6 000. Hein, voilà. Bon. Donc, on vous en parlera après, mais bon, c'est ce que je dis, transmission, on s'aime, etc. Hein, voilà. Et donc, mais c'est un public captif, les scolaires, évidemment, ils viennent avec les profs, etc. Ou alors, un public, disons, qui était en majorité, hein, 50 ans et plus. Mais le profil, disons, jeune ménage, jeune couple avec enfant, par exemple, on était faiblard. Et moi, vous savez comment... C'est Caroline qui m'a fait découvrir ce truc-là en me racontant une histoire. Moi, j'avais évidemment tendance à mettre... On met ici surtout des choses le week-end. Et évidemment, surtout au beau jour. Et un jour, elle m'a dit, je peux raconter cet épisode de ta vie privée. Un jour, elle me dit, on avait de nombreux week-ends, évidemment, par exemple, à partir de mai et de juin. Et elle m'a dit, mais un jour, tu vas me faire divorcer, Parce que, alors je lui dis, mais pourquoi ça? Ben elle me dit, parce que tous les week-ends, je suis là, et c'est son mari, Guillaume, qui garde leurs enfants. Alors, mon premier réflexe a été de lui dire, ben, mais pourquoi ils viennent pas, les enfants, il y a de l'air. Ben elle me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bon, ici. Et moi, en tout cas, pour moi, ça m'a fait un déclic, et on s'est dit, bah ouais, quelles raisons ont des jeunes couples, machin, avec de devenir ici? Et donc, on s'est dit, voilà, hein, vous regardez maintenant, dans la brochure, nous avons un logo spécial pour les initiatives familles. Vous voyez? Alors, par exemple aussi, donc c'est pour en quelque sorte, toucher ce public, l'attirer ici. Alors elle vous parlait tout à l'heure de poésie buissonnière. C'est ça un peu l'idée, hein, au départ, de faire venir des gens là. Puis même, je vais vous raconter encore les coulisses d'un de nos exploits. Vous savez, maintenant, avec les trucs informatiques, là, les téléphones, les smartphones, etc. Il n'y a plus les jours fériés, les saints, etc. Bon, parce que c'est international. Bon. Donc, un jour, on avait fixé ici, sans s'en rendre compte, les chanteuses, un jour de Pâques. Et alors, quand on s'en est rendu compte, c'est un mois avant, on s'est dit, voilà, cata, parce que vraiment, le jour de Pâques, on s'est dit, tout le monde, les Parisiens, machin, et même les gens vont se tirer, etc. Comment faire? Alors on a essayé de changer, de déplacer les chanteuses, hein, et puis pas question, etc. Et finalement, on les a maintenus, et Caroline a eu l'idée de dire, mais tu sais, on va faire une chasse aux œufs. Mmh. Bon. Alors chasse aux œufs dans le parc, on a vu arriver, je ne sais plus, hein, 150 personnes, qui évidemment sont restées pour les chanteuses. Donc on a fait un tabac comme jamais pour ces deux chanteuses. Alors du coup, voilà, c'est rentré dans maintenant, chasse aux œufs est devenu un des grands en classique.
On essaye de donner du contenu, c'est-à-dire, il y a la chasse aux œufs, mais après il y a forcément un spectacle.
Avec des mots.
Cette année c'était autour de la lecture, donc les deux théâtres autour de la lecture. On essaye d'amener de donner du spectacle de qualité au jeune public. Ouais, pour que ce soit pas uniquement
chocolat.
Ils passent un bon moment, mais ils apprennent aussi quelque chose. Et c'est toujours ce qu'on essaye de faire dans tout ce qu'on en place.
Et puis comme ça, les enfants, bien souvent aussi avec les scolaires, on constate ça, amènent les parents le week-end qui suit. Quand ils sont venus ici un truc, le week-end d'après, on voit les mots qui terrent les parents. C'est un truc bien connu dans les lieux culturels, c'est par les enfants qu'on fait venir les parents.
Ça, c'est vrai que c'était assez surprenant, ça ne devait pas du tout avoir de public scolaire il y a encore quelques années, et quand moi j'ai commencé à appeler les professeurs pour savoir pourquoi on avait dire mais Aragon c'est trop compliqué, voilà, et en fait on a créé, parce que moi je m'attendais plutôt à ce que les professeurs nous appellent en tant que lieu de ressources, pour créer des projets pédagogiques, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Ils ne pensaient pas spontanément à nous pour mettre en place des projets. Et donc on a créé des choses qu'on est allé proposer aux scolaires. Donc on a
inverse.
Et donc on a mis en place de très nombreux ateliers. Alors bien sûr des ateliers d'écriture, hein, donc c'était, je dirais, peut-être le plus évident au départ. Donc on travaille sur les jeux surréalistes, on travaille sur les Kazaraki, les mamies, etc. Mais sur l'écriture automatique, on a mis en place des ateliers d'art plastique. Donc on a plusieurs, on en a un autour du surréalisme avec le collage, les monotypes, etc. à partir de textes, hein, tout le temps d'Aragon et d'Elsa en fait. On a un autre atelier d'art plastique qui s'appelle Carnet de voyage, où on invite les enfants à partir à la découverte du parc par un texte d'Aragon, une Rémière, par exemple, de Grégoire et de Mantes, et on doit illustrer ce poème, alors à la fois avec du dessin, de la peinture, avec ce qu'on trouve dans la nature, donc on va créer les couleurs avec de l'herbe ou des choses comme ça, donc c'est une petite balade, et ils retiennent à la fin le poème, quoi. Donc il y a toujours ce côté-là. On a fait des ateliers de musique également, parce qu'Aragon a gagné énormément en musique, et là on a pu s'adresser à tout type de public. On commence dès la maternelle.
Grande section, non,
non. Dès la petite section. Alors là, on travaille différemment, bien sûr. On va avoir des passeurs de mots. Les enfants ne savent pas écrire, mais voilà, on va trouver des stratagèmes en fait pour travailler avec eux. Donc voilà, on va de la maternelle jusqu'au lycée, et donc par exemple pour les collèges et lycées on a créé des choses un peu plus, on travaille beaucoup sur la fiche rouge par exemple, au niveau du graphisme, on leur fait créer une affiche, et donc là on peut travailler à la fois avec le prof d'histoire, le prof de français, le prof d'art plastique. On a mis en place aussi un atelier de slam, parce que ça paraissait plus intéressant pour eux on essaie d'aller vers l'univers en fait des gens et comment l'adapter à ce que nous on peut proposer quelque chose. Et donc là c'est vrai qu'on est très content d'accueillir autant de monde. Maintenant on a les jeux de pistes aussi qui marchent très bien. On a un jeu de pistes avec des énigmes sur Aragon et Elsa dans le parc, ça, qui marche plutôt bien. Et on travaille à la fois avec les scolaires, mais même maintenant on a ouvert au centre de loisirs.
Le mercredi.
C'est toujours une expérience. Moi, je me rappelle, mon fils était rentré un mercredi du centre de loisirs, et je lui ai dit, t'as passé une bonne journée? Il m'a dit, oui, on est allé dans un supermarché. Alors ils étaient allés dans un supermarché voir les décorations de Noël, et j'avais trouvé ça tellement déprimant que je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire pour les... Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de travailler avec les centres de loisirs et de leur dire, venez, vous allez passer une journée dans un parc et dans une maison magnifique, vous allez faire un jeu de piste dans le parc, etc. Et voilà, donc ça marche bien. On a même des enfants qui viennent une semaine avec le centre de loisirs. Et donc le premier jour ils font la visite de la maison, le deuxième jour ils font un atelier d'écriture, un atelier d'art plastique, ils finissent par un jeu de piste. Et ils sont, j'ai jamais passé de meilleures vacances que chez vous, et l'après-midi ils retournent au centre de loisirs et là on leur prête une malle, parce qu'on a créé aussi des malles pédagogiques. Les malles pédagogiques c'était encore autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles qui n'avaient pas les moyens de venir jusqu'à chez nous parce que le transport en car était assez cher, etc. Donc on s'est dit on va créer une malle, donc ça se présente comme une malle ancienne avec dans laquelle on a 7 jeux autour de Aragon. C'est vraiment fait comme des jeux de société, vous avez un mode d'emploi avec un plateau de jeux, etc. Donc vous avez par exemple une petite boîte qui est comme des petits théâtres par exemple, et donc vous faites la lecture aux enfants de textes d'Aragon et d'Elsa, et ils doivent reconnaître les décors et reconnaître les personnages. Il y a un jeu aussi sur les odeurs, donc on a choisi des textes qui mettent en avant des parfums, hein, dans tous les textes d'Aragon et d'Elsa, ils doivent à la fois reconnaître le parfum dans le texte et le reconnaître aussi avec des tests d'odeur, des choses comme ça. Donc voilà, donc on a cette malle-là qui peut tout à fait partir dans des écoles et dans des centres de loisirs.
Si tu ne vas pas à la Gardère,
il y a eu vraiment un engouement pour cette première malle qui était vraiment basée sur Aragon et Elsa et sur les mots. Et donc on a créé une deuxième malle, qui est un chiffonnier en fait, le chiffonnier d'Elsa, parce qu'on l'a vraiment, on a vraiment centré sur Elsa et sur la Russie. Il y a plein de jeux là aussi autour de Maïkovski, des textes d'Elsa, sur la Russie, etc. Et ils partent beaucoup en ce moment dans les médiathèques, dans les écoles. Donc ça c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pour les scolaires. Après, c'est vrai qu'on est, on essaye d'écouter au maximum le public et de voir ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'on a mis en place les journées découvertes, par exemple. Les journées découvertes, ça s'adresse plus aux associations culturelles, aux clubs du troisième âge, etc. Parce que on se rendait compte que on s'était rendu compte que de venir pour les groupes, de prendre un car pour venir juste passer 2 heures à la maison des ateliers de la Raymond, ça revenait trop cher. Donc on s'est associé avec d'autres sites des environs et avec des restaurateurs pour créer une journée complète et faire ça clé en main. Et il n'y avait pas d'office de tourisme à l'époque qui nous programmait ce tour. Donc on a créé ça pour les groupes. Bien. Donc il y a des propositions qui sont différentes, avec des châteaux, avec d'autres maisons d'écrivains, etc. Et puis les randonneurs, c'est un peu particulier. On est sur un chemin de randonnée et on s'est rendu compte que les randonneurs s'en rendaient compte au dernier moment qu'il y avait la maison et ils ne l'avaient pas prévu dans leur temps de parcours, etc. Donc on a créé une journée randonnée où les gens font leur randonnée et s'arrêtent. Et visitent la maison et repartent après dans la boucle.
Alors peut-être un autre aspect, c'est aussi un peu le moulin hors les murs, puisque tu, Bernard, tu as monté un spectacle de cabaret, donc lecture de poèmes, chansons et récits, qui circule un peu partout en France, et donc qui fait connaître aussi l'œuvre d'Aragon.
Oui, c'est-à-dire c'est un peu comme tout ce qu'on fait ici, comme l'Imal, comme les expositions qu'on a ici, parce qu'on a une exposition Aragon et la chanson. Bon, c'est la seule qui existe, elle circule aussi beaucoup, on a des expositions sur la fiche rouge, puisque on avait trouvé un prof dans une école d'art graphique, et en parlant comme ça, s'était rendu compte que l'affiche rouge, c'était d'abord une affiche. Et que lui, il avait des étudiants auxquels il apprenait à faire des affiches. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à... Voilà. Alors, on a fait à la fois histoire, littérature et tout ça. C'était une école qui forme des graphismes en 3 ans après le bac. Et je suis allé voir ces étudiants. Je suis allé leur parler de l'histoire de l'affiche rouge, d'abord. Donc, sur les murs, machin, etc. On fait 40 ans, 44, enfin, etc. L'opération de communication tentée par les nazis, etc. Bon. Et plus le poème d'Aragon. On s'est rendu compte que on leur a demandé de faire en quelque sorte une espèce d'anti-affiche rouge. Hein, bon, on n'allait pas leur demander, évidemment, ils vont faire affiche rouge. Mais. Alors, le prof leur a expliqué pourquoi elle était très mauvaise graphiquement, enfin pour des raisons d'affichiste, elle n'était pas très bonne, voilà, je t'avoue que, bon, enfin elle a quand même marqué des esprits, bon, et parce qu'elle met la question, la réponse, enfin bon, il leur a expliqué qu'il ne fallait pas faire les affiches comme ça, bon, très bien. Et moi, ce qui m'a surtout intéressé dans cette expérience, c'est que les jeunes ont fait, en quelque sorte, des affiches, et où ce qui a été pris majoritairement, c'est des vers qui accrochent toujours les jeunes aujourd'hui, c'est « ces étrangers et nos frères pourtant », et puis c'est « parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles », ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Et tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, c'est pas des noms juifs, polonais, qui naissaient, Mamadou, Rachid, etc., qui sont les noms difficiles à prononcer et qui cherchent à provoquer, dont certains cherchent à provoquer un effet de peur sur les passants. Bon. Donc, on s'est rendu compte là que ça demeurait vraiment, au-delà même de l'histoire de la résistance, de Manouchian, de la Moy, etc., ça restait quelque chose de vivant. Alors du coup, on a pris ces, ces, ces panneaux et on les a plastifiés, durcis, etc. Et on en fait, en gros, où on explique tout ça. C'est l'occasion, au fond, de parler un petit peu de l'actualité, de rappeler ce que c'était que l'affiche rouge et de montrer comment, d'accord, c'est un combat qui a eu lieu il y a des années, mais comment ça reste vivant aujourd'hui. Et ces étrangers et nos frères pourtant, quand tu ajoutes ça, il faut d'Elsa, sans vouloir instrumentaliser Aragon et le faire servir à des causes qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas les siennes, qu'on ne peut pas connaître, bah, d'une certaine manière quand même, la description du Fundouk dans le Fou d'Elsa, moi, ça parle. Bon, donc ça, c'est des choses qu'on fait circuler. Et puis alors, il y a effectivement ce petit spectacle-là, bon, modeste, hein, avec une qui est née de l'idée de Jean-Claude Barras, qui était le directeur du Festival de Marne à ce moment-là, et qui travaillait un peu avec nous, parce qu'il avait dans le cadre du festival, même si on n'est pas dans le Val-de-Marne, il créait comme ça des antennes de création. Il soutenait des projets intéressants de création autour de la chanson. C'est comme ça que nous avons accueilli ici Véronique Pestel, qui met Aragon en chanson aujourd'hui, qui est, c'est pas seulement Ferrat, Ferré, Brassens, Poulenc, etc., qui là sont morts, mais ça continue, quoi, je veux dire, c'est encore, la flamme aragonienne est encore vive, donc cette jeune chanteuse, qui est évidemment peu connue, mais malheureusement, parce que je trouve qu'elle est, c'est sur le créneau de la chanson française de qualité, quoi, hein. Et moi, je dis toujours, c'est une espèce d'Alain Leprest au féminin, et ben, c'est bien dommage que ni Alain ni elle soient suffisamment connus à hauteur de leur talent. Bon, ben, elle met en musique, du coup, elle est venue chanter ici, du coup, on s'est rencontrés, on a rencontré la comédienne, et bon, comme ça que l'idée est née de qu'est-ce qu'on peut faire autour des trois, et comme c'était déjà quelque chose qu'on ressentait ici, hein, parler d'Aragon au grand public, c'est-à-dire évidemment de rien apprendre aux chercheurs qui connaissent Aragon par cœur, mais en tout cas essayer de donner envie de le lire, donc en l'humanisant au maximum. Alors moi, on avait remarqué, c'était notre expérience ici, que partir de la vie, ça l'humanisait beaucoup, parce que c'est un peu comme la maison, hein, la maison, ça le... Il avait une maison comme tout le monde, et il a eu une vie comme tout le monde, et il est né, bon, c'était pas des conditions formidables, hein, la bâtardise, tout ça, bon. Ensuite, la guerre, il a fait la guerre comme les grands-parents, des jeunes d'aujourd'hui, donc ça, alors que l'idée d'écrivain ou d'encore plus de poète, ça vous met volontiers sur une statue, voilà. Là, d'un seul coup, ah bon, bah alors on peut lui parler, quoi, ce gars-là, et on aurait pu le rencontrer, on aurait pu faire la guerre avec lui, Et tout ça, bon. Donc on a pris ce biais de la vie pour entrer en reliant évidemment des poèmes qui sont le plus liés à sa vie. Je ne dis pas que ce sont les seuls et qu'on peut, et on aurait pu faire rien d'autre. Mais enfin, ce qui nous, au-delà du contenu de ce spectacle, qui vaut ce qu'il vaut, même si on essaie de faire très bien tous les soirs, eh ben, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en est à la 77e représentation, on va dépasser les 100. Donc, voilà, c'est...
Avec un public important, ça.
Bah, c'est pas l'Olympia, hein. Je t'avoue que j'ai pas fait les calculs, on le marque tous les soirs, enfin, pas tous les soirs.
On n'a pas encore les chiffres, là,
Les savoir, mais ça c'est vraiment parti d'ici, cette petite chose, et alors bon, ça va pas durer éternellement, mais enfin, il y a de la demande en ce moment, par exemple, on fait aussi ici, enfin, ici ou à l'extérieur, on veut des conversations sur Aragon. Les conversations, c'est un titre un peu... c'est pour éviter conférence, quoi, qui fait des fois un peu fuir le grand public. Bon, alors dans une conversation, c'est bon. Alors, donc, c'est bon, bah, dans ce cas-là, on s'y colle et on y va, et avec on parle de la vie, et puis on lit des textes, on essaie de faire découvrir. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche, qui marche très bien, même s'il n'y a pas la, même s'il n'y a pas la chanson, l'interprétation avec le piano, quoi. Mais tout ça, bon, bah, c'est, on va chez vous et on essaie de semer de l'envie de lire, de découvrir Aragon, et elle va.
Et en fin de compte, la maison a aussi un rôle fédérateur, alors, entre tous les chercheurs, les enfants, le public, les artistes, elle rassemble énormément de...
C'est un peu notre, notre devise, hein. Tous les ans, on fait en sorte qu'il y ait une rencontre de chercheurs, qu'il y ait des poètes, qu'il y ait des...
Et puis finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est très compartimenté, en fait. On le voit, nous, des fois, quand on fait une exposition de peinture, par exemple, ben des fois, on la couple avec une exposition de sculpture, avec un spectacle, on fait venir des enfants, voilà. Et ça crée quelque chose, ça crée une certaine émulation, et on arrive à mélanger, en fait, des gens qui ne se rencontreraient pas en dehors d'ici, finalement. Et donc ça, c'est plutôt intéressant.
Une de nos convictions bien ancrées, c'est que la société produit des cloisonnements, produit des circuits parallèles qui se rencontrent jamais.
Et puis,
je
crois qu'Aragon faisait déjà ça, parce que lui, il a été très proche à la fois des artistes peintres, des sculpteurs, des musiciens, et il était vraiment ouvert à Elsa aussi d'ailleurs, les deux. Donc c'est vrai que on essaye de continuer ça un petit peu avec
le moyen d'un public populaire aussi, la volonté d'avoir un public populaire.
Oui, absolument. Et nous, rien,
tu vois, par exemple, pour tous, voilà, vraiment, donner de la qualité.
C'est un peu ça notre vie, et on peut d'autant le faire avec d'autant mieux le faire avec la maison, que la maison ne paraît inaccessible à personne. Et donc, en gros, il s'agit de faire de la maison un lieu non seulement qui permet de rassembler des gens qui ne se rencontreraient pas dans la vraie vie, si on peut dire, et puis, deuxièmement, de faire en sorte que la maison serve à aller jusqu'au texte, quoi, aller jusqu'au vers, jusqu'à la poésie, et puis au-delà, jusqu'aux valeurs qu'apportait Aragon, jusqu'à etc. Enfin, bon voilà, chacun au fond trouve là une manière un petit peu de... Vous voyez, moi je suis très frappé quand on parlait du petit spectacle là. Souvent après, il y a des pots, on trinque, en amitié, tout ça, très bien. Et donc, on vient et on part. Alors, moi, ce que je remarque, c'est d'une part que des gens qui ont toutes les raisons, qui sont souvent opposés aujourd'hui, pour des raisons d'actualité, je sais pas, des communistes et des qu'ils sont plus, des durs et des mous, des socialistes et des communistes, ou des, bref, toutes les variantes de la... Ben, qui aujourd'hui, pour les raisons de 2012, sont pas forcément du même côté, Aragon, bon, c'est fédérateur. C'est immense, et ça, c'est total respect, comme ils disent. Moi, je vois des fois des gens se saluer qui ne se salueraient pas, qui se trouvent à la même soirée, qui se saluent, mais dont on voit bien que dans la vie actuelle, front de gauche, pas front de gauche, machin, tout ça, tu vois, bon. Voilà, je le devine et je le sens, puis je le vois parce que je le connais un peu, quoi, par mon histoire. Et puis, ça c'est la première chose. Aragon rassemble sur le fond. Les valeurs, les... Bon. Et puis deuxièmement, les gens qui disent, oh monsieur, comme ça fait du bien, des soirées comme ça nous élève. Bon. Alors, c'est le mot qui vient ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de... C'est une circonstance, une occasion, quoi, d'aller jusqu'à des grandes questions qu'élèvent, quoi. Et alors, des grandes questions, puis en même temps, une poésie formidable, des vers, des textes, enfin, ça élève. Bon, bah oui, ça parfume nos matins, voilà, ça parfume nos soirées, et parfois, c'est pas plus mal. Et ça, je dois dire que ce qui est pour ce petit spectacle, c'est aussi tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ici, tu vois. Autre jour, y compris des petits, par exemple, autre jour, il était 16h30, je partais d'ici, et les classes qui avaient fait les ateliers en partaient aussi. Donc, ils se rassemblaient là. Et j'entendais un petit mot me dire à son copain, avec un accent banlieue, pourtant c'est pas le 9-3 ici, mais qui m'a fait penser au 9-3, c'était de dire « Oh dis donc, et Aragon, c'est trop fort !» Alors je me suis dit, bon, au lieu de les faire jouer avec Spider-Man, je sais pas quoi, on les fait jouer avec Aragon, Picasso, Matisse, Éluard, Chagall, Elsa, ça, bon, bah, c'est pas plus mal, quoi. Et les mots me repartent d'ici, et c'est fréquent quand même qu'on nous dise, écoutez monsieur, en arrivant ici, je ne savais même pas qu'il était Aragon, vous m'avez donné envie de le connaître, de le découvrir, Aragon et ça, hein. Et on se dit, c'est...
On a même mis en place, c'est anecdotique, mais on a même mis en place des goûters d'anniversaire pour les enfants, et en fait, les enfants viennent fêter leur anniversaire avec un copain et faire un atelier d'art plastique ou faire un atelier d'écriture. Enfin, voilà, par le jeu, on arrive à retenir plein de choses. Et je pense que, ils font un jeu de piste dans le parc, etc. Donc c'est un peu anecdotique peut-être, mais là, on arrive à avoir des gens qui ne seraient pas venus. Et on a les parents qui font la visite, les enfants font le goûter d'anniversaire, les parents font la visite. Voilà, on rencontre un public qu'on n'aurait pas rencontré autrement, je pense.
On a les chercheurs et toute la diversité du public, c'est un peu notre vocation, hein, je disais, des cloisonnés, quoi. Et même pas les chercheurs entre eux seulement. Je comprends bien que c'est important, hein, les colloques, etc., mais d'essayer, autant que faire se peut, de les faire se rencontrer du public qui n'est pas chercheur, quoi, qui est des passionnés simplement, bon, et puis toute la diversité, hein, des choses et du public. On s'est aussi très très centré sur l'environnement, puisqu'on a essayé d'annuler, quand on faisait des choses avec Saint-Arnoult, il y avait souvent avec le département, il y avait souvent des questions du style, mais Aragon était communiste, comment se fait-il que le département, le conseil général, vous voyez, on était obligé de partir de là quand même, hein. On a patiemment, et maintenant on a d'excellents rapports avec, le conseil général, hein, je crois qu'on peut dire, ça, on est vraiment intégré à tout ce qui est départemental, puisque ils ont eux évidemment beaucoup d'initiatives sur l'ensemble du département, mais souvent nous sommes un des pôles de ces initiatives, quoi. On va, avec Rambouillet aussi, nous avons d'excellents contacts, et puis Saint-Arnoult, on espère que ça s'était déjà un petit peu amélioré sur les derniers temps. On travaille beaucoup avec le collège et les écoles de Saint-Arnoult. Rambouillet nous met dans sa communication régulièrement. Voilà. Puis on a les peintres, tout ça, fait qu'on a désormais, si vous voyez nos dossiers de presse, on a tous les ans, hein, tu fais le. On a une revue de presse parce qu'on est abonné à, je sais pas comment ça s'appelle, un truc. Dès qu'il y a le mot maison Rivière-Aragon, hop, il nous découpe et il nous envoie. Hein, bon. Et quand vous voyez ce qu'on arrive à obtenir sur le net ou sur le papier, en revue, pour les arts, dans les trucs d'art, dans les revues connaissance des arts, etc. Et attention, on a de la presse sous l'angle sortie originale du week-end. Mais par exemple, on a eu il n'y a pas très longtemps à le matin, la télé matin, 30 minutes, il y a un journaliste qui est passionné de l'endroit, hein, et bon, il est venu faire un truc, voilà, on s'est passé. Alors ça, tu vois, on a eu aussi une année, l'année où on a été, c'était l'an dernier, en 2011, hein, l'année où on a été décoré de l'année du site Maison des Illustres, on a eu TF1 qui est venu, le TF1 20h, on a eu 2 minutes dans le TF1 20h, alors là, je ne peux pas me dire qu'évidemment, c'était pour le vendredi soir, qui précédait le samedi et le dimanche, le week-end des journées du patrimoine, je vais entendre dire que ça a défilé. Mais tu vois, en même temps que la télé, c'est des faits importants, mais immédiats. Hein. Ça dure pas très longtemps, quoi. Mais c'est voilà.
C'est vraiment impressionnant, quoi.
Ah oui, bien sûr. Donc on a eu des reportages, on a des émissions, on a même eu 25 minutes, ce qui est énorme, hein, sur la 3, enfin, bon, donc... Et ça a élargi, et comme les journalistes se recopient beaucoup eux-mêmes,
ah, oui.
Ça, c'est défaut, qualité, je sais pas, en tout cas, dès que tu as un truc dans un média, l'autre en prend connaissance et t'appelle pour dire, dis donc, j'ai vu que, alors bon, hop, alors tu as un truc dans le Figaro pour le comment week-end original, hop, Europe 1, hop, machin, tu vois, ça. Bon.
Mais c'est une énergie.
Voilà.